Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, pour vous, au menu, on revient sur le dossier de l'ex-juge Jacques Delisle, donc qui a eu accès à un nouveau procès. On en parle avec Catherine Lamontagne, qui a écrit un livre sur ce dossier-là. Ensuite, maître Jean-Pierre Rancourt nous parle du méga gym fitness à Québec. Où est-ce que il y aurait eu des éclosions? Il nous explique, est-ce qu'il pourrait y avoir eu de la négligence criminelle? Ensuite, maître Sophie Mongeon nous parle du port du masque, maintenant obligatoire dans les lieux de travail et sur la rue si on rencontre des gens. Et pour finir, Patrice Ouellet, gestionnaire de haute performance, nous fait une analyse de la gestion de la pandémie du gouvernement ici en fin de course, à savoir si c'est correct de mettre des dates et des repousser par la suite. Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
On revient sur l'affaire Delisle, le juge, l'ex-juge qui obtient un nouveau procès, erreur judiciaire, nouvelle preuve. On en a parlé hier avec maître Frédéric Bérard et on a essayé d'analyser un peu ça, c'est quoi l'erreur judiciaire, pourquoi c'est pas allé à la Cour suprême. Par contre, tout ce qui est des faits, ça fait quand même longtemps. On voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé lors du premier procès, où est-ce qu'il a été condamné à la prison à vie pour un meurtre premier degré. Et on en parle avec Catherine Lamontagne, qui est journaliste au Journal de Québec, qui a écrit un livre, Le dernier procès. Vous pouvez l'avoir chez Renaud Bré. Le dernier procès, l'affaire Jacques Delisle. Elle est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Donc, vous avez écrit un livre sur ce dossier qui a capté l'attention du Québec, certainement, durant le procès, et maintenant qui va recapter l'attention pendant un certain temps. Si on repart du début, là, comment ça commence, là, l'histoire de Delisle?
Ça commence en novembre 2009, quand la femme du juge de Lille, Nicole Rainville, est retrouvée morte avec une balle dans la tête dans l'appartement familial. C'est à Sivry, donc un quartier assez cossu de Québec. Jacques Delisle, c'est lui qui va la trouver au retour d'une commission, donc on appelle le 911. Et ce qui est intriguant, ce qui intrigue rapidement les policiers et les enquêteurs dans la découverte de ce corps-là, c'est une tache noire qui est au creux de la main de Nicole Rainville. Il faut dire que Mme Rainville, elle était âgée, elle avait 71 ans, puis elle avait eu dans les dernières années un AVC et une fracture de la hanche, et elle était désormais paralysée tout le côté droit. Et cette fameuse tache de noir de fumée-là, on va la retrouver dans le creux de sa main gauche, et c'est plutôt inhabituel. Donc, à ce moment-là, il y a une enquête policière qui s'enclenche. Les experts du laboratoire de sciences judiciaires et médecine légale à Montréal se penchent là-dessus. Et ça va prendre des mois avant que Jacques Delisle soit arrêté en 2010. Okay. Donc, c'est comme ça que ça commence.
Donc, et là, cette arme-là, justement, parce que je m'en rappelle encore quand les accusations sont tombées, les gens se posaient beaucoup de questions. Et ce qui marquait les gens, c'est qu'on se rend compte que l'arme qui est prohibée, hein, en quelque sorte, qui n'a pas de permis, appartient au juge de Lille à l'époque.
Oui, et ce qui va être expliqué au procès qui va se tenir en 2012, c'est que c'était une arme, c'est un petit pistolet que Jacques Delisle s'était fait, qui avait reçu en cadeau, en fait, du temps où il chassait les oiseaux, je me souviens plus trop précisément, là. Puis c'était une arme qu'il gardait dans son bureau à la Cour d'appel du Québec, et quand il a pris sa retraite en 2009, quelques mois avant le décès de sa femme, il l'avait rapportée à la maison.
OK. C'est donc, il l'avait rapporté, puis ça lui appartenait. C'est ça avait choqué pour beaucoup de gens qu'un juge dans son bureau ait ce genre d'arme-là.
Ce qui avait choqué, c'est qu'à l'époque, au procès, Jacques Delisle, il y avait des questions que cette arme-là avait été laissée comme sur une commode à l'entrée dans l'appartement, quelque chose qui était très facile d'accès. Jacques Delisle, donné une version des faits, là, en 2015. Et là, on va comprendre finalement que cette arme-là, elle était cachée en haut d'une commode dans la chambre du couple. Donc, elle n'était pas facile d'accès finalement.
OK. Et là, cette arme-là, justement, est au cœur du procès. Là. Est-ce que Mme Rainville avait la capacité de l'utiliser pour s'enlever la vie? Là?
Mais ce qui est au cœur du procès, c'est la fameuse tache noire qu'elle a au creux de la main. Mm-hmm. Parce que pour la poursuite, eux, ils se disent, écoutez, si Mme Rainville est paralysée tout le côté droit, elle ne peut pas s'être servie de sa main droite pour tenir l'arme. Donc, forcément, quelqu'un d'autre devait tenir l'arme et elle a dû faire un geste de défense en mettant sa main à sa tête et c'est ce qui aurait donné là, le tatouage de noir de fumée là, qui serait de la poudre à canon, dans le fond, que ce serait incrusté dans le creux de sa main. Mm-hmm. Du côté de la défense, ils ont dit, attendez, nous, on pense que Mme Rainville peut s'enlever la vie avec un tir auto-infligé si elle tient l'arme à l'envers. Donc, en tenant l'arme à l'envers, selon la défense, là, on retrouvait ce même tatouage de noir de fumée dans le creux de la main.
Ah, je comprends.
Donc, au cœur de ce procès-là, c'est vraiment des expertises balistiques. L'angle de l'arme, la trajectoire de la balle, le tatouage de noir de fumée au creux de la main, c'est tout ça qui était là. On a eu droit à des versions contradictoires du début à la fin du procès par différents experts qui venaient tantôt démontrer la preuve de la thèse du meurtre, tantôt défendre la preuve la thèse du suicide.
Et si je me rappelle bien, on disait au final justement une guerre d'experts et on se rendait compte que peut-être la couronne avait des meilleurs experts que la défense. Est-ce que on sentait ça en assistant au procès?
Ben au procès, visiblement, le jury crut la couronne parce que Jacques Delisle a été reconnu coupable. Donc clairement, c'est la preuve de la couronne là, qui a été crue par le jury.
Oui, effectivement. Et parlons-en du jury. Parce qu'on sait que bon, c'est un juge qui est jugé. c'est quand même particulier dans notre société. On ne veut pas de préjugés autant d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'on semblait avertir, le juge semblait avertir les jurés de cet élément-là?
Je me souviens pas de la sélection du jury, là, ça fait quand même longtemps, là, c'était en 2012.
Mémoire,
là, je pense que c'était 8 hommes et 4 femmes ou l'inverse, là, mais
okay.
J'aurais même pas dû m'avancer là-dessus, là, je ne m'en souviens plus. Mais chose certaine, vous l'avez dit, c'est assez exceptionnel. Dans le cas de Jacques Delisle, c'est la première fois au Canada qu'un juge est accusé là pour l'infraction la plus grave au code criminel, qui est celle de meurtre prémédité. Donc, clairement, il y avait un caractère exceptionnel dans ce procès-là.
Oui, effectivement. Et dans le procès, parce qu'il y a toute la dynamique là qui dont on discute beaucoup sur l'avocat Maître Jacques Larochelle, qui est un grand avocat, bon plaideur, et tout l'élément d'avoir fait témoigner son client, M. Delisle. Est-ce que ça, vous en connaissez, dans le livre, vous en parlez là, de cet élément-là? Est-ce qu'on devait le faire témoigner ou pas, Jacques Delisle?
Oui, au moment du procès, il avait été annoncé que Jacques Delisle allait témoigner. C'était comme le dernier témoin de la défense. Puis, coup de théâtre, finalement, Maître Larochelle a dit qu'il n'y avait plus de preuves à offrir, que sa preuve était complète et que Jacques Delisle ne viendrait pas dans la boîte des témoins. Okay. Ce qu'on a su plus tard, moi, lors de la rédaction de mon ouvrage, quand j'ai pu aller rencontrer Jacques Delisle en prison, ce qu'il me disait, c'est que c'était pas nécessaire de témoigner. À ses yeux, la couronne n'avait pas là une cause hors de tout doute raisonnable. Il était vraiment confiant d'être acquitté. Maintenant, ce qu'on a su en 2015, parce que, bon, on le sait, là, Jacques Delisle a été reconnu coupable, il a tenté de faire casser le verdict en cours d'appel, en cours suprême, et là, il y a rien de tout ça qui a fonctionné. Donc, en 2015, il est allé chercher un nouvel avocat qui est spécialisé dans les erreurs judiciaires. puis a déposé à Ottawa une demande de révision ministérielle pour tenter là, justement que ce soit d'obtenir un nouveau procès, de libérer les accusations ou de renvoyer tout ça à la cour d'appel. Mm-hmm. Et dans le cadre de cette de ce processus-là qui a, on le sait, leur donné la tenue d'un second procès en bout de ligne, Jacques Delisle a livré pour la première fois sa version des faits. Et là, il est allé dire, ben voici ce que j'aurais dit si j'étais allé témoigner. Finalement, il a dit qu'il avait aidé sa femme à se suicider en lui fournissant la fameuse arme prohibée et chargée qui était cachée en haut d'une commode là, dans sa chambre à coucher. Donc, sa femme dépressive lui l'aurait supplié de lui donner l'arme. Il lui aurait laissé. Il serait parti faire une commission et au retour, il l'aurait retrouvé décédé.
Donc, c'est intéressant. Il dit pas qu'il l'a aidé, mais qu'il lui a laissé l'arme.
Il lui a fourni l'arme chargée. Ouais. Okay. Voilà.
Je comprends.
Et pour compléter, il va le dire aussi plus tard qu'il regrette au final d'avoir témoigné. Et de ce qu'on comprend de ses explications, c'est qu'il n'aurait pas témoigné sous la pression d'un membre de la famille qui aurait trouvé ça absolument dévastateur pour le clan de Lille, pour ses enfants et ses petits-enfants, que Jacques de Lille vienne dire à la cour là, qu'il avait aidé en quelque sorte son épouse à s'enlever la vie.
Mm-hmm. Donc vous l'avez rencontré après tout ça là, en prison? Là.
Moi, j'ai rencontré... pendant ces processus d'appel à la Cour d'appel et à la Cour suprême, je ne lui ai pas reparlé depuis.
OK. Est-ce qu'il semblait confiant? Est-ce qu'il gardait l'espoir? Ou?
Ah oui, beaucoup. Déjà à l'époque, il gardait espoir. Puis, cette semaine, j'ai pu m'entretenir avec ses enfants à la suite de l'annonce du ministre fédéral de la Justice. Et ce que sa fille me disait notamment, c'est que son père avait tellement espoir et lui croyait tellement que c'était pas difficile pour les enfants de garder espoir aussi. Tout le monde était convaincu de l'innocence de Jacques Delisle dans cette affaire-là. Tout le monde était convaincu qu'il était victime d'une erreur judiciaire. Donc leur version, du moins ce qu'ils disent, c'est que l'espoir a toujours été là. Malgré les revers, parce que depuis près de 10 ans, Jacques Delisle n'avait connu que des revers jusqu'à cette semaine.
Oui, fait c'est vraiment quand même particulier, puis c'est comme on l'a déjà dit, c'est très rare ces révisions judiciaires-là, la 7e au Canada. Parce que ce qu'on veut au final, c'est que justice soit faite. Si on veut pas qu'il soit en prison s'il l'a pas fait, puis s'il l'a fait, ben effectivement, on veut que justice soit faite. Il nous reste une minute à peu près, Madame Lamontagne. Est-ce qu'il y aura une suite là, au livre, j'imagine?
Ah, ben on aimerait ça, évidemment. Écoutez, moi, c'est une histoire humaine qui me passionne en tant que journaliste, là, c'est évident. Moi, j'ai énormément appris à travers ce procès-là. J'ai rencontré des humains extrêmement compétents, professionnels. Vraiment, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'habite. Ouais. Évidemment, là, que j'aimerais pouvoir... écoutez, continuez d'écrire là-dessus, là, mais bon, ce n'est pas que de mon ressort.
Je comprends, on vous le souhaite. On espère peut-être aussi une fin heureuse. Des fois, les livres finissent bien, on verra. Mais déjà, je pense que vous avez parlé aux enfants, ça doit être une nouvelle qui accueille avec un certain soulagement et certainement rempli d'espoir. Là. On verra la suite. Merci beaucoup, Catherine Lamontagne. Très intéressant. On se reparlera selon l'évolution du dossier et en espérant selon l'évolution de votre livre. Merci beaucoup. Bonne journée.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacan. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Un client qui aurait fréquenté le méga gym à Québec est mort de la COVID. Bon, on ne peut pas faire de lien avec sa fréquentation, c'est difficile. Il y a toute cette polémique cette semaine autour de ce gym-là qui aurait généré jusqu'à près de 400 contamination, 400 personnes contaminées, parce qu'on sait que c'est exponentiel. Certaines personnes fréquentent, rencontrent d'autres personnes dans leur famille et ça se propage comme ça. Et là, de voir qu'il pourrait y avoir un mort lié à cette explosion-là nous fait nous poser beaucoup de questions sur quelle est la responsabilité de quelqu'un à l'ère COVID, bon, un propriétaire d'entreprise ou un individu qui ne respecterait pas de règles sanitaires. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'il a été négligent, criminellement négligent? Et on voulait en savoir plus. On en parle avec Maître Jean-Pierre Rancourt. Bonjour.
Bonjour à vous.
Merci, Maître Rancourt. Je le sais qu'on est en territoire inconnu. C'est du nouveau pour le droit, tout ce qui est droit criminel, la COVID-19, l'implication de quelqu'un qui ne respecte pas les règles. Mais on va essayer un peu de spéculer, de savoir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui serait possible et où va s'en aller le DPCP avec tout ça. Pour vous, est-ce que quelqu'un qui ne respecte pas des règles et que ça amène des contaminations, voire des gens gravement malades et des morts, est-ce que ça pourrait être de la négligence criminelle?
Ben, ça pourrait, techniquement, parce que négligence criminelle, c'est, par exemple, faire quelque chose ou omettre de faire quelque chose qui met la sécurité d'autrui en danger. Alors, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que le propriétaire, par exemple, de ce gym-là a omis de prendre les mesures nécessaires, sachant que ça mettait en sécurité, en Jeopardy, là, en danger la sécurité des gens. Alors ça, à ce moment-là, on pourrait peut-être aller jusque-là. Évidemment, c'est comme vous le disiez, c'est du droit nouveau. Pour aller jusqu'à une négligence criminelle, accuser le propriétaire, par exemple, du gym, on est loin, là. Mais ça pourrait arriver techniquement, oui.
C'est ça, techniquement, parce que l'omission dans négligence criminelle de faire quelque chose, c'est une loi qui nous impose de faire ça. Et dans ce cas-là, un décret est un peu comme une loi, là.
Absolument. Et sachant que, par exemple, en ne prenant pas les dispositions qui ont été imposées, recommandées et imposées par le gouvernement, et sachant très bien, parce que tout le monde le sait, dans quel état on est maintenant au niveau sanitaire avec ce COVID-là, ne le faisant pas, est-ce que c'est une négligence criminelle? Ben, on se pose la question. Est-ce que l'homme raisonnable, le bon père de famille, aurait agi de cette façon-là? C'est le critère. Et si on se fout carrément de la sécurité des gens, ben, ça peut aller jusqu'à une négligence criminelle.
Mm-hmm. Donc, mettre en cause la négligence criminelle, c'est pas seulement d'être imprudent, là. J'imagine que c'est de quoi de plus gros que ça, là.
Absolument. Il faut être plus que ça. Vous pouvez, par exemple, être négligent ou imprudent, sans trop savoir les conséquences. Mm-hmm. Mais quand vous devez savoir les conséquences de vos actes ou de vos omissions, dans ce cas-ci, ben à ce moment-là, on pourrait se poser la question, est-ce que vous avez manqué à votre devoir de protéger vos concitoyens, mais de façon négligente? Vous savez, au niveau civil, c'est différent, mais au niveau criminel, il y a un fardeau plus important. Est-ce que, à ce moment-là, on a négligé complètement la sécurité d'autrui? Comme vous le dites, ça va être éventuellement quelque chose que le DPCP va évaluer. Mais c'est du doigt nouveau à ce moment-ci.
Mm-hmm. Parce que on a vu... on va parler de la preuve à faire, justement. Vous parlez du fardeau de preuve qui est difficile. En droit criminel, ça doit presque être impossible d'arriver puis dire, cette personne, exemple, est décédée. Bon, on peut déterminer qu'elle est décédée de la COVID-19. Je pense que ça va bien. Mais de dire, elle l'a vraiment attrapé... la maladie, le virus, dans ce gym, au moment où est-ce qu'il l'a fréquenté. Ça doit être difficile comme preuve. Et d'arriver pour faire la preuve et dire le propriétaire a réellement manqué à son devoir d'une manière, un écart marqué par rapport à une autre personne. La preuve doit être très difficile là, pour se faire.
Absolument, parce que, vous savez, il faut faire la relation de cause à effet entre le décès et la négligence criminelle de Jim en question. Mm-hmm. Alors, est-ce que à ce moment-là, on peut déterminer de façon hors du tout raisonnable que le fait d'avoir omis de mettre les mesures sanitaires a occasionné la mort de l'individu, mm-hmm. Ça va être difficile de trouver ça.
Je comprends. Et quand il y a des procès comme ça, est-ce que le fait que le comportement antérieur là, de quelqu'un, là, si, parce qu'on sait dans ce cas-là, bon, c'est quelqu'un qui contestait les règles ouvertement, ça c'est son droit, bon, liberté d'expression, mais est-ce qu'on peut revenir et dire, ben ça vient renforcer la preuve parce que vous étiez contestataire ou ça, c'est pas lié, là?
Ben ce serait un élément important. Si, par exemple, on fait la preuve que vous avez contesté, vous étiez à l'encontre des mesures sanitaires, vous avez manifesté ça de façon publique, ben on peut amener ça comme élément pour démontrer son intention de ne pas donner les mesures sanitaires nécessaires pour éviter un drame comme ça. Mm-hmm. Alors ça, c'est un élément qu'on pourrait amener, oui.
OK, ça pourrait peser dans la balance.
Ouais.
Et également, bon, on sait qu'en matière de travail, on a vu une évolution du DPCP, là, de la poursuite pour on tolère moins, bon, un entrepreneur, un boss, là, quelqu'un qui a des employés. On a vu des causes où est-ce que, bon, un employé qui est allé dans une tranchée, la tranchée, il a tombé dessus, il n'était pas sécurisé. On a responsabilisé l'entreprise, bon, qui n'ira pas en prison, aura une contravention, et l'administrateur qui a été condamné, ou cette histoire d'un employé qui a un camion qui n'est pas entretenu. Il se tue et l'administrateur est condamné pour négligence criminelle. On a vu ça évoluer beaucoup avec le droit du travail parce qu'avant, on en voyait moins. Est-ce qu'on risque d'assister à ça avec la COVID-19 dans le sens que c'est nouveau, mais est-ce que vous pensez qu'on va commencer à se poser des questions là, sur ça, là, à savoir c'est quoi la responsabilité de quelqu'un qui ne respecte pas la règle?
Oui, absolument, vous avez raison, ça évolue beaucoup. Depuis plusieurs années. Maintenant, les entreprises, les entrepreneurs, les administrateurs d'une compagnie ont une responsabilité et ça peut aller jusqu'au niveau criminel. Si, par exemple, on sachant qu'on devait prendre des mesures pour empêcher qu'un accident arrive, on ne le fait pas, ben on peut être accusé, comme vous l'avez donné comme exemple, les cas dont vous avez parlé, on peut aller mm-hmm. tenir responsable au niveau criminel les administrateurs d'une compagnie. C'est un peu nouveau, mais ça existe au code criminel maintenant et on va l'appliquer de plus en plus et peut-être qu'on va l'appliquer dans le cas de la COVID-19 aussi.
Oui, OK, je comprends. Parce que c'est du déjà vu, des maladies comme ça qui se donnent, il y a une responsabilité. Quelqu'un qui s'est contaminé, par exemple, et qui va contaminer d'autres personnes, il y a une responsabilité, ça s'est déjà vu, là.
Oui, on l'a vu, ou des gens, par exemple, qui avaient des maladies sexuelles qui le cachaient, par exemple, à leur ami et contaminaient au niveau sexuel l'autre personne, sachant très bien que ils le savaient et l'autre personne ne le savait pas, pouvait être déclaré coupable d'une négligence criminelle, oui.
Mm-hmm. Maître Rancourt, pourquoi on parle souvent du bon père de famille quand on parle de situations comme ça, de négligence?
Bien, vous savez, pour évaluer une négligence criminelle, on se dit, est-ce que, par exemple, vous auriez agi de la même façon? Si l'homme normal n'aurait pas agi de cette façon-là, de façon à causer, par exemple, un accident ou à ce moment-là, c'est le critère un peu de l'indigence criminelle, du droit criminel où on se dit l'homme normal n'aurait pas agi comme ça, donc c'est une indigence. C'est un peu le barème où on se pose à ce moment-là.
OK, c'est vraiment le barème ouais. De la personne comme normale versus l'autre personne. Est-ce ouais. que, d'après vous, avec la COVID, parce qu'on a vu le tousseux du terminal, la cracheuse qui a craché sur une rampe. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent évoluer en droit criminel avec la COVID? Ou, Est-ce qu'il y a d'autres genres d'accusations?
Ben oui, parce que, vous savez, à chaque fois, chaque année, on a des événements différents. La COVID, c'est tout à fait différent pour nous. Alors, à ce moment-là, le droit criminel doit s'ajuster. Et si on peut déterminer qu'une personne a agi ou omis d'agir de façon non sécuritaire pour autrui et volontairement, ben, on peut les accuser. Et ça s'en vient là.
OK, ça évolue assez rapidement. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Rancourt. Très éclairant. Bonne
Merci,
fin bonne... de journée. Bye-bye.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
Deux grosses nouvelles cette semaine qui ont marqué notre attention avec les masques. Les masques, maintenant, seront obligatoires dans les milieux de travail en tout temps. Et également, oui, à l'extérieur, si c'est une autre famille, vous devrez porter le masque. On ne savait pas si on allait se rendre là. Oui, avec le variant, c'est ce qui a été décrété. Cette implication des masques, on se posait la question, surtout en milieu de travail, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça peut être lié à une maladie professionnelle? Quand un employé peut refuser de le porter, s'il refuse de le porter, est-ce qu'on peut le congédier? Et on en parle avec Maître Sophie Mongeon, que vous connaissez, qui connaît bien le milieu du travail. Bonjour, Maître Mongeon.
Bonjour.
Donc, on va y aller en deux temps. Donc, on va parler en premier lieu des masques obligatoires dans les milieux de travail. Ça implique quoi? Est-ce qu'un employé peut refuser de le porter?
Non, c'est sûr que non. Il peut pas refuser de porter. La loi est assez claire à cet effet-là. La loi sur la santé et sécurité dit qu'un employeur doit absolument protéger ses employés. Donc, si les règles sont pour protéger l'ensemble de ses employés, qu'un masque doit être mis, faut qu'il soit mis. Sinon, effectivement, il pourrait se voir puni, suspension ou peut-être même au congédiement, là, dépendant des circonstances, là.
OK. Bon, ça a le mérite d'être clair. T'sais, il faut porter le masque, évidemment, vu des règles sanitaires importantes pour protéger le public et l'employeur doit protéger tout le monde qui est sous son toit. Également, est-ce que quelqu'un là, dont le masque lui nuit à sa santé, est-ce que c'est une maladie professionnelle?
Mais avant ça, j'ai goût de vous dire, Maître Bernier, que je suis allée un petit peu plus loin dans cette histoire-là de masque. Et je suis allée vérifier sur le site de la CNSST, parce que c'est pas uniquement de porter un masque maintenant tout le temps. Maintenant, il y a une spécification par rapport au masque. Donc, ça doit absolument être le masque médical. Le couvre-visage n'est pas considéré du tout comme un équipement de protection individuelle qui respecte la loi sur la santé et la sécurité du travail. Donc, moi, personnellement, j'avais fourni à mes employés un beau masque, un couvre-visage plutôt, en guise de protection. Mais si on se fie maintenant aux consignes de la CNSST, il faut absolument que ce soit un fameux masque médical ou sinon un masque qui est officialisé par le Bureau de normalisation du Québec. Donc, vous savez que beaucoup de masques artisanales là, qui avaient pris pignon sur rue, là, mon inquiétude, c'est tous ces masques artisanales-là ne seront plus conformes à la nouvelle réglementation. Là.
OK, donc c'est vraiment le masque là, chirurgical qu'on voit qui est demandé. Et ça apporte une autre question. Est-ce que c'est à l'employé de le fournir ou à l'employeur?
C'est une excellente question, Maître Bernier. Écoutez, à brûle pour point, comme ça, j'ai le goût de vous dire que quand c'est essentiel au travail, ça doit être fourni.
Ouais.
Selon moi, au courant des prochaines semaines, un employé pourrait demander à l'employeur de fournir les masques qui sont adéquats.
Effectivement, je suis d'accord avec vous que je pense que ça va être à l'employeur de le fournir. Ce qu'on voit, c'est ça, c'est qu'on veut être certain que le masque est porté et que c'est la bonne et c'est le masque chirurgical. Donc, effectivement, on pense que ce sera le devoir de l'employeur. Ensuite, pour ce qui est des masques, là, on a vu que c'est même dans la rue, à l'extérieur, le masque doit être porté. Comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y aura des contestations de ça? Parce que on est passé, au début, les gens déjà ont rechigné pour le masque. Et évidemment, on sait que c'est pour notre protection. Mais est-ce qu'on va trop loin en l'exigeant, même dehors et même dans les milieux de travail?
Mais je pense que l'objectif vraiment, c'est de casser cette pandémie-là. Fait que là, moi, mon opinion personnelle, c'est que je trouve ça vraiment difficile. Mm-hmm. Mais je pense pour l'ensemble de la collectivité, on n'a pas le choix de se plier à tout ça. Est-ce qu'il va y avoir des amendes et tout? Ça, c'est possible. Ça, c'est à voir. Mais ça va être un petit peu plus difficile de jouer à la police parce qu'effectivement, quand on regarde attentivement, oui, il faut porter le masque. Mais si on est assis à 2 mètres de distance, on n'est pas obligé de le porter. Donc, on est exempté si on est assis loin à 2 mètres. Alors, qui va mesurer tout ça? Comment ça va être appliqué comme tel, ces nouvelles consignes-là? Je le sais pas. Les prochaines semaines pourront nous le dire.
Donc, en ce moment, il y a quelqu'un qui est à l'extérieur, bon, on est plusieurs. Si on réussit à avoir la distance, on n'est pas obligé, c'est ça que non? J'ai de le porter?
Exact, fait que c'est un petit peu compliqué. T'es à l'extérieur, t'es obligé de le porter, mais si tu t'assois, t'es à 2 mètres de distance, tu peux l'enlever. En principe, c'est ce qui ressortirait là, des dernières informations là, qu'on a eues là, dans les dernières 24-48 heures. Là.
Et si je comprends bien, d'être assis, c'est très important. Là.
Oui. C'est bien indiqué. Assise à une distance de plus de 2 mètres, comme dans un parc, on est exempté et on pourrait retirer le masque à ce moment-là.
OK. Donc, des gens qui sont debout à 2 mètres ou plus pourraient avoir une amende?
Je pense que oui. Okay. C'est ce que dans le son qu'on retrouve là, du point de presse là, de mardi là, qui a été effectué. Là, on le cite, M. Legault, puis c'est ce qu'il disait. Si vous êtes assise à une distance de plus de 2 mètres, comme dans un parc, vous pouvez retirer votre couvre-visage.
Je comprends bien. C'est quand même logique, parce que c'est vrai que ce qu'on voit à l'extérieur, les gens debout, c'est pas long que quand on est capable de marcher puis de s'avancer, on remarque souvent que le 2 mètres, il est là au début, puis il n'est plus là à la fin. Donc, quand les gens sont assis à moins de ramper, c'est plus difficile de se rapprocher. On comprend bien. Merci, Mme Bourgeon. C'est une bonne spécification. Spécification aussi qui est importante de dire à nos auditeurs, les masques dans les lieux de travail, c'est partout. Hein. C'est pas seulement dans les usines, là. C'est dans les bureaux, c'est tout milieu de travail, là.
C'est tous les milieux de travail. Ça vient vraiment préciser. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'on n'empêche pas les activités, donc on les reprend. Mm-hmm. En principe, dans le milieu de travail, nous, on n'est pas comme en Ontario, où on retourne en confinement, mais dans les lieux de travail, c'est à portée en tout temps. Et le seul temps qu'on peut l'enlever, c'est dans la mesure où on a besoin de parler. Par exemple, si je rencontre mes clients et je suis à 2 mètres de distance et le fait que les clients m'entendent pas bien puis c'est essentiel, je peux l'enlever, mais c'est faut que ça soit une exceptionnel. Ouais. Oui, justifié, exactement.
Je comprends bien. Il y aurait une action collective, un recours collectif, comme on appelle souvent, lié au masque, là, déjà, là, pour ce qui est des nouvelles règles.
Ben oui, dans le fond, là, oui, on est obligé de porter un masque. Là, le problème, c'est qu'il y a certains masques qui ont été fournis à des corps de métier comme les écoles, les garderies ou dans des établissements de soins de santé. Puis là, on découvre que certains masques avaient un produit qui s'appelle du graphène qui contient des particules de carbone qui pourraient être nuisibles pour la santé. Donc là, les masques qui étaient fournis par l'employeur à ce moment-là à ces corps de métier-là se retrouvent avec des problèmes. D'ailleurs, j'ai une amie qui est professeure qui me dit qu'elle, quand elle porte le masque à la journée longue, elle a des céphalée qui s'installe. Elle a un mal en arrière des oreilles et elle a des difficultés à respirer et il y a des rhinites qui s'installent puis des sinusites. Donc, elle me disait ça avant qu'on découvre qu'il y a certains masques qui peuvent contenir des substances qui peuvent être dangereuses pour la santé. Alors, si dans le cadre de votre travail, on vous a fourni un masque qui est une source de problème, ça s'appelle une maladie professionnelle.
Ah, c'est bon. Ça revient à ma question du début. Ça peut devenir une maladie professionnelle à cause du masque, là.
Oui, effectivement. C'est, par exemple, il y a des gens qui vont développer des intolérances au latex quand on porte des gants. J'ai des peintres de voitures qui vont développer avec le temps des allergies à la peinture, tout ça. Donc, si dans le cadre de votre travail, vous avez été soumis à quelque chose qui fait en sorte que vous développez une allergie, c'est prévu sur la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles qu'on peut faire une réclamation de maladie professionnelle. Donc, ça, c'est pour les travailleurs. Mais qu'en est-il des autres qui ont utilisé ce masque qui contient du graphène? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là s'ils développent des problèmes?
Ben là, est-ce que l'action collective les vise aussi ou c'est seulement pour des travailleurs?
Ben c'est ça. Hier soir, il y a eu une action collective qui a été déposée en toute vitesse. Moi, j'ai eu l'information, il était passé 6h30 hier, comme quoi qu'effectivement, qu'il y avait un groupe de droits de consommateurs qui a entrepris une action collective contre l'entreprise Métallifère de Lévis. Eux, ils distribuaient les masques faciales qui contenaient du graphène, donc qui étaient potentiellement toxiques. Donc, rapidement, ce groupe-là a déposé un recours collectif en indiquant qu'il y avait un jeune homme de 30 ans, là, qui avait ressenti des démangeaisons à la gorge, un inconfort à respirer, puis une irritation de la peau. Alors, tout de suite, il y a eu une action collective qui a été déposée pour donc les gens qui ont été dans l'obligation ou qui ont porté ce masque-là qui n'est pas couvert là, par le cadre de leur travail.
OK. Et dépendamment du dommage, s'il y avait gain de cause, là, c'est pas autorisé encore comme action collective. Il pourrait y avoir des dommagements dépendamment de la gravité de ce qu'on a subi, là.
Ben éventuellement, là, évidemment, là, on a arrêté le processus, on a fait la requête introductive d'instance. Évidemment, là, pour un recours collectif, il y a d'autres étapes à venir, mais au moins ça c'est fait. Et c'est quand même rassurant pour le citoyen qui se retrouve qui développe des problèmes de savoir qu'il y a peut-être un recours là, pour l'indemniser. L'indemniser, là, c'est des sous, oui, mais c'est une façon de dire qu'on a justice pareil puis qu'on a subi un tort, qu'il soit moral ou physique, là.
Parce qu'on risque de voir ça de plus en plus là, au travail, là, parce que on sait que c'est une maladie professionnelle. Comme vous le dites, on est indemnisé par la loi et on risque de voir ça de plus en plus.
Oui, ben oui, parce que de toute façon, là, actuellement, il y a une grosse réforme, vous savez, sur la LATMP, j'en parle souvent, et toute la section de maladies professionnelles, elle est revue. Par exemple, la semaine passée, on a le ministre Boulay, qui a parlé de les pesticides. On sait que les agriculteurs qui ont été en contact avec les pesticides ont des risques de développer une maladie de Parkinson, par exemple. Donc, c'est ça la beauté des maladies de cette loi-là qui permet d'indemniser ces gens-là qui ont subi des torts.
Je comprends. Maître Mongeon, rapidement, désolé, c'est une grosse question. Est-ce que ça peut être psychologique? Est-ce que quelqu'un peut dire, ben moi, le masque, ça me cause des problèmes psychologiques?
C'est une très, très bonne question. Ça serait plutôt un cas d'espèce. Ça dépend pourquoi. Bon. Tu sais, si on en fait des cauchemars, etc., ou on a l'impression d'être étouffé, je vous dis que tout est possible.
OK. On s'en reparlera. Parce que certainement qu'on n'a pas le choix. Si le masque reste, en plus, il y aura des décisions dans ce domaine-là parce qu'on sait qu'il peut y arriver quelques problèmes, même si on dit qu'il ne faut pas le porter. Porter le masque, c'est important. On veut sortir de cette pandémie. Merci beaucoup, Maître Sophie Mongeon. Je te reparle la semaine prochaine pour un autre dossier.
Parfait, merci.
Au revoir.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avec la situation de la COVID-19, les mesures qui se raffermissent, une troisième vague, la crainte de l'explosion des cas, la crainte de l'embourbement dans les hôpitaux, fait que, bon, on a vu cette semaine le gouvernement qui prolonge toutes les mesures qui avaient été surtout appliquées, bon, à Québec, à Gatineau, dans ces régions-là où est-ce qu'on était au rouge, on est tombé au rouge foncé, qu'on appelle, et ben, d'autres régions comme Montréal qui sont au rouge aussi, où est-ce qu'on a remis le couvre-feu à 8 heures. Aussi, bon, dans les autres régions, on ferme les on laisse les écoles fermées. Mais on se pose la question, est-ce que la gestion est bien faite. On comprend, on veut pas trop que les gens soient déprimés, mais est-ce que c'est trop difficile pour les entreprises, pour les personnes, ceux qui ont des enfants, d'y aller semaine par semaine, pensant se faire dire une date que qu'on va revenir à la normale? C'est pas le cas, c'est prolongé. Cette gestion-là, on va l'analyser avec Patrice Ouellette, que vous connaissez, de la méthode 48 heures, gestionnaire de haute performance. Bonjour, Patrice.
Bonjour, Maître Bernier.
On a besoin de vos lumières en tant que gestionnaire, à savoir, est-ce que ce qui se passe, là, on comprend toutes les... On voudrait pas être à leur place tout le temps pour des décisions, mais si on analyse ça, là, est-ce qu'on fait bien là, de mettre une date, puis de revenir, puis de prolonger, puis est-ce que ça ne crée pas une incertitude qui est plus grande que si on fermait pour un mois, par exemple?
Écoutez, ce qu'on peut comprendre, M. Bernier, c'est que le premier ministre essaie de jongler entre différents enjeux. Un, évidemment, qui est la santé, protéger la santé publique, mm-hmm. mais aussi à jongler avec un enjeu de l'économie et un enjeu de l'éducation. Et ce que je peux comprendre à travers ce qu'on voit, un peu comme en gestion de crise en entreprise privée, il y a comme quatre critères lorsqu'ils sont présents, nous oblige à prendre des décisions à très, très, très court terme, malgré que les gens détestent l'incertitude. Et ces quatre critères-là, mm-hmm. mais regardez, je regardais puis je comparais la crise qu'on vit présentement, et ces quatre critères-là, présentement, sont présents. Ah. On parle d'une crise, il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup d'incertitude, c'est complexe et c'est ambigu.
OK.
Et quand ces quatre ingrédients-là sont présents, dans une crise, dans une entreprise, je me rappelle très bien, les auditeurs peut-être s'en rappelleront, lorsqu'il y a eu la crise de la pédale chez Toyota.
Non.
À l'époque, j'étais à la crise de la pédale chez Toyota, les accélérateurs, et puis...
Restait coincé, là.
Ben oui, les accélérateurs qui restaient coincés, ça a fait, écoutez, il y a des gens, je regarde moi à l'époque, il y a des gens qui étaient convaincus que Toyota allait fermer, et la crise qu'on vivait était directement relié à ces quatre critères-là. Alors, lorsqu'on est dans une crise et que ces quatre critères-là sont réunis, malheureusement, il n'y a pas d'autre chose à faire que de prendre des décisions sur un horizon court terme. Et c'est ce qui est fait présentement. Okay. Et le premier ministre ne nous dit pas que après le 12, là, c'est reporté, je crois, au dimanche, le
18 avril.
Le 18. Ouais. Il nous dit pas qu'après le 18, on va revenir à normal. C'est pas ça qu'il dit, là. Mm-hmm. Donc, faut pas que les gens pensent que ça va tout changer au 18. C'est qu'on va évaluer dans la semaine qu'est-ce qui va se passer. Et ce que je peux comprendre derrière ces décisions-là, c'est qu'aussitôt qu'on peut donner un souffle à l'économie, on veut y aller. Mm-hmm. Parce qu'écoutez, ça fait un an, il y a des gens qui souffrent.
Je comprends bien, ça me fait réaliser des choses. Je comprends bien la forme d'équilibre, ce que tu dis, entre différents enjeux. Donc, l'éducation, protéger avec la santé, et aussi l'état psychologique des gens. Je pense que c'est un élément qui est quasiment dangereux dans cette gestion-là, s'il ne fait pas attention au moral en même temps que mettre des mesures, il y a un risque. Quel genre de risque tu vois? C'est une forme de désobéissance qui va s'installer? Ou?
Ben écoutez, je ne sais pas si on peut parler de désobéissance publique. Je regarde le peuple québécois en général et quand même, je dirais pas docile, mais je pense pas qu'on va se rendre là. Mais en même temps, il y a des gens qui vont y laisser leur fortune. Il y a des gens qui vont vivre, des drames, je dirais. Il y a des gens qui vont penser peut-être qui vont avoir des tendances suicidaires. Mm-hmm. Et c'est pas évident pour certains entrepreneurs où c'est la troisième fermeture. On vient de réembaucher des employés. Et le premier ministre, il est pris. C'est pour ça qu'il est premier ministre. Et j'écoutais le docteur Simon qui disait la semaine passée, écoutez, nous, nos représentations auprès de l'appareil public, auprès du premier ministre, c'est de dire qu'il faut confiner. Mais d'une chose est claire, je voudrais pas être dans ses souliers parce que lorsqu'il prend une décision, il ne doit pas juste considérer cet aspect-là. Il doit faire l'ensemble, de regarder l'ensemble du portrait. Et on sait, M. Bernier, que présentement, il y a tellement, tellement de polarisation. Il y a des gens qui disent qu'il devrait avoir aucun confinement. Il y a des gens qui disent qu'on devrait être complètement confiné. Et entre les deux, il y a une foule de gens qui se situent là-dedans. Il y a une chose, par contre, Maître Bernier, que j'aimerais souligner. Je regardais les statistiques qui sont disponibles sur le site de la santé publique.
OK.
Et je vous dirais que normalement, les prélèvements quotidiens se situent toujours autour de 25 à 33 000 par jour. Et curieusement, hier, les prélèvements sont montés à 46 000. Okay. Alors, c'est clair que si vous faites 46 000 prélèvements, puis votre pourcentage présentement est à 4 %, mais quand on dit qu'il y a eu une explosion de cas, ben faut pas oublier qu'il y a eu une explosion de prélèvements.
Le test, aussi, là. OK.
Puis ça, ben personne n'en parle, là.
Ah, fait que
c'est sûr qu'avant une conférence de presse, puis écoute, je suis pas en train d'insinuer que c'est fait volontairement, mais je trouve ça curieux que le niveau de prélèvement n'a jamais été aussi élevé dans une journée.
Je comprends. On veut être équipé pour se justifier.
Ben, écoutez, si je regarde la journée d'avant, c'était 34 000. 4 % du 34 000, ça nous donne 1270 cas. 4 % de 46 000, ça nous donne 1609 cas. Alors oui, les cas ont explosé, mais si on aurait fait 60 000, on serait au-dessus de 2 000, vous comprenez?
Oui, je comprends.
Fait qu'en même temps...
C'est vraiment intéressant, j'avais jamais pensé à ça. Puis on les blâmera pas pour ça, il y a une stratégie de communication aussi.
Exactement.
Et de se dire, hey, on teste plus, puis on en trouve plus, donc la situation est grave. Mais je comprends ce que tu veux dire.
Est-ce qu'il y a un côté volontaire dans ça? C'est pas ça que je veux insinuer, mais en même temps, faut avouer que ça justifie bien d'autres mesures supplémentaires quand on voit dans les manchettes qu'il y a une explosion de cas.
Bien, volontaire, certainement une préparation, peut-être, ou c'est peut-être un hasard, on verra, mais on comprend, c'est comme un gros dossier en affaires, on va se préparer avant de le présenter, bien c'est peut-être...
Ben voilà, hein. Ouais. Lorsqu'on négocie avec les employés préparent leur dossier, on prépare le nôtre, puis on fait dire un peu aux chiffres ce qu'on veut pour nos intérêts. Mais écoutez, c'est intéressant quand même de suivre cette donnée-là, parce qu'il y a vraiment eu une explosion du côté des prélèvements.
OK. Non, vraiment intéressant. Puis on va vérifier. C'est intéressant d'avoir toutes les données. Mais évidemment, quand même, une situation qui est grave. Puis je comprends bien, c'est quand même justifié ce que tu expliques. Je comprends qu'on ne peut pas prévoir, mais ils n'ont pas le choix d'agir comme ça. Puis je pense que les gens n'ont pas le choix quelque part de comme on dit l'expression, espérer le mieux, mais s'attendre au pire.
Oui, écoutez, l'être humain, je regarde, lorsqu'on a tous eu, je pense, dans notre parenté, des gens qui étaient en attente d'un diagnostic. Mm-hmm. Et lorsqu'on ne sait pas ce qu'on a comme être humain, donc lorsqu'on est dans l'incertitude, c'est beaucoup plus difficile à vivre que lorsqu'on apprend qu'on a le cancer, c'est moins dur que pendant qu'on attendait sans savoir si on l'avait.
Ah oui, OK.
Et donc, l'être humain déteste l'incertitude. Et présentement, parce que les mesures en place sont sur du court terme, c'est excessivement dur à vivre pour la population. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas où on s'en va. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va être pire? Est-ce que ça va être mieux? Personne ne le sait. Et ça, il faut accepter présentement qu'on est dans une phase ou comme on le disait, beaucoup de volatilité, c'est complexe, beaucoup d'ambiguïté, on entend toutes sortes de choses, le Texas fait des matchs de baseball, mm-hmm. Il y a 48 000 personnes dans un stade. Voyez-vous, les messages sont très conflictuels hein, pour les gens, donc ouais. C'est dur d'interpréter cette réalité-là.
Ben effectivement, ça prend du... Il faut laisser aller quelque part, lâcher prise dans cette
voilà.
Situation, et voilà. Sauf que, à quelque part, on est en fin de marathon, on l'espère, et c'est comme plus dur à la fin de lâcher prise. Là. On sent les
gens
veulent que ça change.
Absolument. Mm-hmm. C'est ça que je dis aux gens, écoutez, restons solidaires.
Ouais.
On y va au jour le jour. Hein. C'est ça une crise. Hein. C'est vraiment y aller au jour le jour. Et là, la situation économique aussi exige qu'on peut pas, je pense, de façon responsable, mettre des mesures pour 4 semaines.
Ouais, je comprends.
Parce que si jamais ça s'améliore, on veut être en mesure de pouvoir profiter de l'amélioration assez rapidement pour
Ouais.
Pour redémarrer, donner du souffle aussi à ces entrepreneurs-là.
Ben oui. Non, ça fait voir une autre vision parce que avant de te parler, je pense que je me disais, coudon, c'est tannant, mais je comprends bien la vision puis ça s'explique bien. Patrice, merci. C'est tout le temps qu'on avait, mais je te réserve déjà la semaine prochaine. J'aimerais ça qu'on se parle de la gestion des vaccins. Ça doit être toute qu'une gestion. Puis on a vu cette semaine même, on a réprimandé le gouvernement en disant il y a des doses disponibles à Montréal, pourquoi on ne les a pas dans les régions? On se garde ça pour la semaine prochaine du côté gestion. Qu'est-ce que ça implique, une vaccination massive comme ça?
Très bon sujet, Maître Bernier, absolument.
Parfait, on se donne rendez-vous. Merci beaucoup, Patrice Ouellet.
Merci.
Bye-bye.
Cube Radio.